Bienvenue au podcast du CSH. Aujourd'hui, on va parler du hockey. C'est un thème qui est très populaire au Canada. Puis, dans le fond, c'est vraiment le sport national. Donc, on va vraiment parler de ça. On va aborder plein de sujets par rapport au hockey. Ça va être vraiment le centre de la discussion. Le hockey, c'est un sujet qui nous intéresse toutes les trois, moi et mes deux coéquipières, Karine et Alexandra.
Bonjour.
Moi, c'est Sarah. Et je vais animer la discussion tout au long de notre podcast. On va commencer un peu par vous parler de nos articles qu'on a écrits en rapport avec le hockey. Donc, on va commencer avec celui d'Alexandra. Ton article, c'était à propos de quoi?
Mon article, c'était à propos de l'aspect économique du hockey. Donc, on sait, comme Sarah l'a dit plus tôt, que le hockey, c'est un sport que tous les Américains connaissent, autant ceux qui viennent des États-Unis ou les Canadiens. C'est un sport national qui est très populaire. Qui permet autant aux petits et grands de jouer. On peut autant le regarder ou simplement en être juste passionné. La majorité des Nord-Américains peuvent affirmer connaître au moins un joueur de la Ligue nationale. C'est le sport, dans le fond, qui est le plus pratiqué au Canada. L'économie fait bien évidemment partie des effets majeurs que le hockey apporte sur une ville. On remarquera, dans le fond, dans l'article dont je vais vous parler, quels impacts peuvent être à la fois positifs puis à la fois néfastes pour les régions. Donc, dans l'économie du Canada, on remarque que le hockey, autant mineur que professionnel, contribue à environ 2,6 milliards de dollars à l'économie. C'est ce que nous déclarent Scotia Bank et Canadian Tire. Cette dernière information permet de voir à quel point le hockey a un impact considérable sur l'économie fédérale et non seulement sur l'économie provinciale. Le précédent 2,6 milliards de dollars que je viens de vous parler, c'est seulement la contribution de 7 équipes canadiennes. Donc, on peut imaginer pour les États-Unis à quel point l'impact doit être grand puisqu'ils ont vraiment plus d'équipes. Dans la même étude, on a également déduit que les Canadiens dépensaient en moyenne 11,2 milliards de dollars pour un an dans tout ce qui touchait le hockey, soit l'équipement, l'inscription des joueurs, les parties de hockey, les chandails portant l'emblème de leurs équipes préférées, les objets achetés dans les boutiques. Dans le fond, c'est vraiment là, une partie majeure de l'économie. Le hockey aide également les villes en portant le nom de celles-ci dans leur nom d'équipe. Comme par exemple, les Canadiens de Montréal portent le nom de la ville dans leur nom. On peut également se faire connaître lorsque les équipes de hockey vont jouer à l'extérieur et que les journaux locaux de l'équipe adverse mettent en gros titre la victoire et la défaite de l'équipe favorite. Comme par exemple, on peut regarder dans le New York Times la victoire des Sénateurs d'Ottawa, mais on va voir le nom de la ville d'Ottawa dans le journal. Il s'agit dans le fond d'une publicité qui coûte rien, mais qui rapporte beaucoup d'argent aux villes. Les séries éliminatoires à la fin de la saison rapportent également une grosse somme d'argent. Bien sûr, l'impact économique est valable seulement pour les villes où les équipes se rendent jusqu'aux séries. Tout ce qui touche les annonceurs, les commentateurs sportifs, les diffuseurs locaux, les publicités, ça aide énormément l'économie à tourner. Il y a par exemple les Prédateurs de Nashville qui ont une pression énorme d'aller en série cette saison afin d'assurer le soutien financier de leur ville, car on sait que la somme d'argent recueillie aide également la ville en question. Lorsqu'une équipe se rend jusqu'en série, l'aréna où les parties ont lieu reçoit également un surplus d'argent. Si on prend Centre Bell, par exemple, où jouent les Canadiens de Montréal, en saison régulière, ils gagnent un certain montant en vendant les billets ou en vente de boissons et nourriture. Mais si l'équipe se rend jusqu'en série, le Centre Bell ressort encore plus gagnant en ayant cherché plus d'argent puisque la série se prolonge. Mais on sait bien sûr que c'est pas le cas cette année. Les joueurs de l'équipe participent également à l'économie. Lors d'une partie à l'extérieur, l'équipe est amenée à utiliser un transport quelconque en commun, soit l'avion, l'autobus, les taxis, ou peu importe tout ce qui touche dans le fond le transport pour se rendre à l'aréna. Arrivée dans la ville de la partie prévue, l'équipe loue également des chambres dans un hôtel. Ils commandent des films payants, commandent un repas, de la boisson, ils sortent dans les bars, ils mangent aussi dans les restos, fait que tout ça, ça fait tourner aussi l'économie locale des villes. Il y a aussi des événements qui font que le hockey apporte pas beaucoup d'argent au sein d'une ville. On peut parler aussi, par exemple, du lockout. Cet événement est en fait quand le monde du hockey est en arrêt pendant un nombre incertain de temps ou même annulé pour régler des affaires importantes, comme les règlements, les salaires des joueurs, les relations de travail et plusieurs autres sujets. Les plus touchés pendant le lockout sont bien évidemment les propriétaires d'équipes, les joueurs qui ont dû arrêter de jouer en Amérique, puis il y en a même qui s'en vont jouer dans les équipes européennes. Ces personnes sont pas les seules touchées. Il y a aussi les propriétaires de commerces près des arénas, les médias tels que RDS, les commanditaires qui payaient pour de la publicité, puis tous les employés directement liés au hockey. L'équipement qu'utilisent les joueurs, soit les épaulettes, les patins, les bâtons, les rondelles, le casque, les bas, sont tous commandités par une compagnie qui sait qu'en faisant porter le produit à des vedettes, les enfants vont vouloir acheter ce produit-là. Ils vont dire à leurs parents « Maman, moi aussi, je veux le même bâton que Sidney Crosby. » Fait que c'est ça qui fait, dans le fond, qu'ils n'ont même pas besoin de payer les joueurs pour porter l'équipement. Juste le fait de le porter, ça va leur faire de la publicité. Il y a dans les arénas aussi, comme le Centre Bell, plusieurs restaurants et boutiques qui sont installés. Ces magasins se font beaucoup d'argent lors des parties de hockey. Il y a également les vendeurs de maïs soufflé, de boissons qui circulent dans les gradins afin de vendre leurs produits qui aussi font part de l'économie dans les villes. Les publicités qui sont montrées pendant les soirs de parties rapportent également beaucoup d'argent. Autour de la glace, il y a des collants inscrits les noms des compagnies comme Jean Coutu, Sport Expert, La Cage au Sport. Puis il y a même certains collants qui sont changés entre les périodes pour avoir encore plus de visibilité, pour mettre encore plus de compagnies. Donc, tout l'argent que les diffuseurs médiatiques se font pour avoir diffusé leur publicité pendant la partie, ça peut monter aussi à un très gros montant. Pour diffuser les parties de la LNH, les diffuseurs doivent avoir un contrat qui leur donne tout droit de la diffusion. Donc, la compagnie Roger a dû acheter un contrat de 12 ans qui leur permet de la diffusion de toutes les parties de la LNH. Cette même compagnie a ensuite sous-contracté avec des compagnies comme RDS, TVA Sport, CBC, Radio-Canada et plusieurs autres. Tout cela est sans oublier toutes les émissions produites qui sont reliées au hockey, comme les femmes de joueurs d'hockey, l'avant-match, Antichambre, Sport 30, le 5 à 7 et plus encore. Le hockey fait également tourner l'économie avec tous les employés qui sont directement liés avec le sport. On peut penser aux entraîneurs, aux arbitres, aux dirigeants, aux physiothérapeutes, les médecins sportifs. Tous les soins, dans le fond, que les joueurs doivent recevoir, soit pour une réparation de dents ou même jusqu'à un plâtre, bien ça aussi, ça fait tourner l'économie locale. Il y a également plusieurs produits dérivés qui sont en vente dans certains magasins, comme l'Aubainerie qui vend des chandails avec le logo des Canadiens de Montréal, ou encore Sport Expert qui vend des rondelles à climat CH ou vend des bâtons que Sidney Crosby joue avec le même. On peut avoir certains magasins d'équipement qui vendent des bâtons aussi autographiés simplement par les vedettes. Lors de la soirée d'une partie, les partisans qui se rendent à l'aréna utilisent souvent des moyens de transport comme le métro. Donc, c'est pas juste les joueurs qui utilisent ces transports en commun. Là, on sait que les stationnements sont pas nombreux à Montréal, ce qui fait en sorte que les partisans sont amenés à faire tourner aussi l'économie des transports. Il y a beaucoup de commerces qui tirent avantage du fait que le hockey, c'est un sport populaire dans l'Amérique du Nord. Il y a la bannière de la cage au sport, Boston Pizza, les bars et restaurants locaux. Il y a les salles de sport qui, eux, souvent utilisent des athlètes comme Piqué Subban pour Boston Pizza qui font des publicités. Il y a aussi, lors des parties en soirée, il faut réserver une table rapidement dans les restaurants parce qu'on sait que quand, mettons, il y a des parties avec les Canadiens contre les Bruins, il n'y a aucune place c'est de libre dans le coin. Il y a aussi des fondations qui existent comme la Fondation des Canadiens pour l'enfance qui permet d'amasser des fonds pour les enfants qui n'ont pas les moyens de faire du sport ou ceux qui sont malades et qui souffrent du cancer par exemple. Il y a aussi plusieurs joueurs qui font régulièrement des visites dans les hôpitaux pour aller voir les enfants malades qui rêvent de rencontrer leurs idoles. Puis finalement, on remarque bien que le hockey apporte beaucoup d'avantages économiques à sa région. Plusieurs régions dépendent même des séries éliminatoires pour que l'économie soit bonne. Plusieurs commerçants, fabricants d'équipements, transports en commun, restaurateurs, bref, une bonne partie de la population locale dépend de ce sport national. Sans le hockey comme apport d'argent, les villes ne trouveraient probablement pas d'autres attraits qui rapporteraient autant d'argent et autant de touristes que celui-ci.
Toi, dans le fond, Karim, c'était quoi le sujet de ton article?
Moi, dans le fond, je vais parler du nationalisme et le hockey. Tout d'abord, ça voyait l'importance que mon entourage portait pour le Canadien de Montréal, que je me suis posé la question si cette importance était ancrée dans le nationalisme culturel du Canadien ou c'était juste une simple passion commune. Donc ma question se basait surtout sur si le hockey est présent dans le nationalisme canadien. Je suis basée sur plusieurs thèses qui portent sur le nationalisme du Canada. Il est important de préciser quelques aspects avant toute chose. Depuis les années 1990, on propose de plus en plus de nouveaux modèles pour expliquer le phénomène du nationalisme. En fait, le nationalisme, ça valorise surtout la différence sur toutes ses formes, puis va faire valoir une attitude qui se base surtout sur le goût de se distinguer. Il valorise des caractéristiques communes comme la langue et la culture. Il va surtout se faire ressentir au Québec à l'ère du mouvement d'indépendance politique du Bas-Canada et du Haut-Canada. On ne peut pas parler du nationalisme sans parler de l'arrivée du hockey. Son apparition va se faire par l'arrivée des immigrants européens qui vont introduire en Amérique du Nord une multitude de jeux qui vont être similaires au hockey, comme la crosse française, le shinty écossais, le curling irlandais et le hockey sur gazon. Le 3 mars 1875 va avoir lieu le premier match de hockey sur glace avec des règles et joué pour la première fois à l'intérieur au Victoria Skating Rink. Et un peu plus tard, apparaîtra la Ligue nationale de hockey qui sera créée le 26 novembre
1917. Puis, est-ce qu'il existe un autre sport qui aurait pu être choisi comme sport national pour le Canada?
En fait, dans les textes que j'ai lus, plusieurs croyaient que le hockey sera en août à cause de l'hiver. Par contre, dans les travaux de Murrow, Keyes et Simpson, ils suggéraient que d'autres disciplines auraient bien pu ravir le titre du sport national au Canada au début du 20e siècle. C'est la crosse et le football. En fait, 20 ans avant le premier match officiel de hockey soit joué à Montréal, La crosse était le sport national. Ça va être la première équipe de sport de l'histoire canadienne à arborer la feuille d'érable sur son uniforme. L'autre sport était le football. En fait, le hockey n'était pas un spectacle assez attrayant parce que les matchs étaient regardés dehors et les conditions climatiques rendaient le spectacle atroce avec des gradins non chauffés et limités.
Puis, comment le hockey, dans le fond, il a pris la place de sport national au Canada?
En fait, l'arrêt du hockey amateur va être signé le 26 novembre 1917 car les propriétaires de quatre équipes vont déclarer la nouvelle ligue de hockey professionnelle publiquement. Leur principal objectif était évident. Tout leur investissement et tous leurs efforts auraient eu pour but que de forger la loyauté des consommateurs et avoir de gros profits. Ils ont fait des investissements massifs pour standardiser le jeu, en rendant les arénas confortables et sécuritaires, et en procédant à une mise en marché. On aurait transformé le hockey pour pouvoir le vendre dans le fond. Le hockey a réussi en une dizaine d'années à distancer la crosse et le football par le suivi du sport par radio. Les médias ont joué un rôle clé dans ce processus d'identité canadienne. Un autre événement qui a fait en sorte que le hockey est devenu notre sport national, c'est le rôle de la série du siècle de 1972. Ce match-là opposait le Canada et l'Union soviétique dans 8 matchs consécutifs. Dans les thèses que j'ai lues, l'étude des représentations identitaires constate que les médias font une association claire entre la série et les valeurs du Canadien. Durant ces matchs, on a pu remarquer qu'il y a eu des baisses d'achalandage sur les routes, des pénuries de taxis, puis même des fermetures d'écoles. La série a été sans doute l'événement le plus médiatisé au Canada. La victoire du Canada va marquer l'histoire et va être regardée par 12 millions de Canadiens comparativement à 10 millions quand il y a eu le grand pas pour l'humanité sur la Lune en 1969 par Neil Armstrong. En résumé, le hockey, selon mes lectures, n'aurait pas été naturellement dans le nationalisme canadien, mais a été marqué par des gros événements qui ont su mettre en valeur ce sport pour nous représenter assez bien. Cette recherche m'a fait voir surtout une autre vision de l'arrivée du sport national. Il va de soi que le hockey sur glace a une appartenance intime avec le Canada. J'ai été surpris, par contre, des motivations pour son expansion. Voilà.
Moi, dans le fond, je vais vous parler aussi un peu d'économie, comme Alexandra le fait, sauf que moi, c'est à propos des salaires des joueurs de hockey à différents niveaux, puis à différents moments de l'histoire. Premièrement, on s'entend qu'en Amérique du Nord, le sport, ça occupe une place très importante dans la culture. Dans certains pays, même un certain sport peut être une religion, comme dans le fond, au Canada, le hockey peut l'être, ou aux États-Unis, le football peut l'être. Chaque grande ville en Amérique du Nord a pas mal une équipe d'au moins un sport, comme le hockey, le baseball, le soccer, le basketball, puis même souvent plusieurs équipes dans la même ville. Dans le fond, ces villes-là, ils ont des équipes qui jouent dans des ligues spéciales, donc pour chaque sport, puis à différents niveaux. Ces équipes-là peuvent faire percevoir des gros revenus, dans le fond, à la ville, puis aussi aux propriétaires des équipes. Et ça fait vraiment tourner l'économie avec la vente de billets, de marchandises dérivées, des articles spéciaux comme des livres. Un ressortif qui peut rapporter gros pour les entreprises comme l'Auto-Québec, dans le fond, qui a mis au jeu, ou des choses comme ça, où on peut faire des paris sur des matchs de sport, ou littéralement sur tous les sports, dans le fond. Dans le fond, quelque chose d'important à comprendre, c'est que les joueurs sont signés à coup de vraiment gros contrats, puis pour certains, c'est de plus en plus un problème, parce que les gens trouvent que les joueurs sont accordés des salaires vraiment exorbitants par rapport à ce qu'ils font pour la société. Il y en a évidemment qui vont les défendre, probablement ceux qui sont fans de hockey, puis ceux qui vont ne pas les défendre, ceux qui évidemment ne sont pas fans de hockey. Dans le fond, au Canada, on va parler surtout de justement les salaires des joueurs de hockey, parce que les autres sports, c'est pas aussi exorbitant qu'aux États-Unis, où les joueurs de football, les joueurs de baseball, les joueurs de basketball vont tous faire des salaires beaucoup plus hauts que les joueurs de hockey, peu importe la ligue, c'est la Ligue nationale qui a les moins hauts salaires, mais au Canada, c'est la Ligue nationale qui a les plus hauts parce que c'est juste la LCH qui est la Ligue canadienne de football, puis les salaires sont vraiment moins hauts dans cette ligue-là. Premièrement, dans le fond, je vais faire un petit résumé de comment t'es payé quand tu joues junior. Je vais prendre ici comme exemple la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a plusieurs équipes partout au Québec, puis dans le fond, les joueurs de 16 à 19 ans qui vont jouer dans la ligue vont être payés de 35 à 60 $ par semaine. Ça, c'est une allocation qui leur est donnée. On juge dans le fond que c'est assez pour leurs activités personnelles puisqu'ils veulent se payer pour eux. Parce que dans le fond, ils sont considérés comme amateurs, c'est pour ça qu'on les paye pas tant que ça. Les équipes vont payer leurs équipements, vont payer leurs études, puis souvent les pensions où ils habitent. En fait, pas souvent, mais toujours les pensions où ils habitent. Puis les familles vont payer évidemment leur nourriture, puis leur logement tout au long de leur carrière. À leur 20e anniversaire, par exemple, les joueurs vont rester souvent dans leur pension, vont encore se faire payer leurs équipements puis leurs études, mais ils vont recevoir une allocation vraiment plus grosse, ils vont avoir une augmentation de salaire, parce qu'à partir de 20 ans, ils pourraient aller jouer dans des ligues professionnelles puis devenir des joueurs professionnels, ce qui veut dire qu'ils pourraient avoir des salaires vraiment plus gros.
Puis on parle d'une augmentation de combien?
L'augmentation, dans le fond, à partir de cet âge-là, ils peuvent avoir 400 $ par semaine. C'est quand même une grosse augmentation, mais c'est vraiment juste dû au fait que la Ligue veut garder certains joueurs qui sont plus vieux pour garder un niveau de jeu dans la ligue qui est quand même assez bon. Ils veulent aussi ça, garder les plus vieux qui ont de l'expérience, qui vont faire du bon jeu pour quand même attirer les foules dans la ligue. Puis ils vont les payer plus cher justement pour les inciter à rester. Mais c'est ça, ils vont quand même tout leur payer ce qu'ils leur payaient avant quand ils faisaient juste de 35 à 60$ par semaine. Généralement, les joueurs vont rester une année de plus dans la Ligue junior majeure du Québec quand ils ont 20 ans. Souvent, c'est soit qu'ils sont pas capables de se tailler une place dans la Ligue américaine ou dans une Ligue de l'Est, ou dans le fond, que ça, c'est juste que ça leur tente de rester avec l'équipe, mais ça, c'est moins, c'est plus rare. Là. Normalement, quand tu te fais faire une offre par une équipe de la Ligue américaine, tu y vas. Puis aussi, dans le fond, à la fin de leur carrière de hockey, on offre souvent des bourses d'études aux joueurs pour aller étudier parce que justement, ils ont souvent un peu délaissé les études pour se concentrer sur le hockey, ce qui est normal si c'est leur passion. Dans le fond, on veut juste les aider à bien comme démarrer leur vie après leur carrière de hockey. Maintenant, dans le fond, je vais faire un portrait un peu de l'évolution des salaires dans les ligues professionnelles de hockey. C'est principalement au Canada, mais dans le fond, c'est dans la Ligue nationale, qui était la International Pro Hockey League. Ça, c'est à son origine. C'est la première ligue professionnelle qui a été régie au Canada et aux États-Unis. Dans le fond, les données là-dessus sont quand même assez rares. C'est pas très documenté, les salaires des joueurs. Surtout dans les... Ben, dans le fond, les premières données viennent à peu près dans les années 1800, où les joueurs étaient tous considérés comme amateurs, donc ils étaient pas payés. Puis leur motivation, c'était purement relié au sport. Après ça, par exemple, dans les années 1800, on a aussi commencé à penser qu'il y avait des athlètes qui étaient soupçonnés d'être payés, même si techniquement, ils étaient pas supposés. Donc, il y en avait qui avaient des salaires qui étaient sûrement pas gros, mais ça reste qu'il y avait quand même des salaires. Puis, dans le fond, c'était pas les... Ben, c'était pas légal, mais c'était pas dit au grand public qu'ils étaient payés. Techniquement, ils étaient supposés être payés vraiment juste pour, avec, dans le fond, l'expérience que ça leur donnait, puis le fun qu'il y avait. C'est en 1901 qu'il y a certains joueurs qui vont commencer à être considérés comme professionnels. Puis ce qui est drôle, c'est que pour être considéré comme un joueur professionnel, faut que tu joues avec un joueur professionnel. Donc je sais pas c'était qui le premier joueur professionnel, je sais pas comment il a fait pour devenir le premier joueur professionnel, mais il l'a fait. Et après ça, ses coéquipiers sont devenus des joueurs professionnels aussi. Donc c'est justement là, c'est la International Pro Hockey League, qui est la première ligue professionnelle de hockey sur glace. Elle a été fondée en 1903. C'est la première ligue qui va émettre un règlement sur les salaires des joueurs. On va accorder, dans le fond, c'est les profits des arénas qui vont payer les salaires des joueurs, puis on va accorder 40% des recettes des arénas pour qu'ils soient versés aux équipes pour aider à payer les joueurs. C'est en 1909 que les ligues seniors vont devenir professionnelles, puis qu'elles aussi vont pouvoir ouvertement payer les joueurs. Les salaires vont augmenter peu à peu, dans le fond, avec la compétition qu'il va y avoir entre les équipes pour avoir des meilleurs joueurs, pour avoir des meilleures performances, puis gagner, dans le fond, la saison à la fin dans les séries. C'est vraiment ça, c'est la compétition entre les équipes qui va faire que les salaires vont toujours monter de plus en plus pour obtenir des meilleurs joueurs. Tous les joueurs vont être payés, mais évidemment, il va y avoir des différences de salaire dépendamment des performances des joueurs. Puis aussi, au cours de l'histoire, les salaires ils vont varier en augmentant puis en baissant à cause de plein de conventions puis de règlements. En fait, genre d'année en année, ce qui arrive, c'est que des propriétaires vont s'indigner parce qu'ils vont penser que les salaires vont être trop hauts, mais après, fait qu'ils vont les baisser pour faire des recours collectifs et tout. Puis après ça, les joueurs vont trouver que les salaires sont trop bas, donc ils vont encore faire des conventions pour les réaugmenter. Fait que c'est pour ça qu'il va y avoir souvent des changements dans les salaires. Déjà à l'époque, les gens trouvaient que les salaires des joueurs étaient exorbitants. En 1911, ça avoisinait 1000$ pour les 10 semaines de la saison où les joueurs étaient contenus de s'entraîner puis de jouer 10 parties avec l'équipe. Pour comparer, dans le fond, un travailleur de la construction faisait en moyenne 720$ par année à cette époque-là, puis le joueur qui en faisait 1000 pour 10 semaines. Donc les gens, c'est ça, commençaient déjà à trouver que les salaires étaient exorbitants, même si on s'attend qu'aujourd'hui c'est pas grand-chose ça, mais un joueur de hockey, dans le fond, pouvait faire deux fois plus d'argent que la moyenne des gens en Amérique du Nord. Puis c'est ça, évidemment, grâce à ça, il y avait un bon niveau de vie, grâce à leur salaire puis leur métier. En plus, ils passaient beaucoup de temps à voyager parce qu'il fallait qu'ils aillent dans d'autres villes pour jouer leurs matchs. Ben maintenant, dans le fond, je vais parler des joueurs de nos jours. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Premièrement, je pense que c'est important d'introduire la notion de plafond salarial, puis la notion de plancher salarial. Premièrement, le plafond, mais c'est le montant maximal qui est accordé aux équipes pour payer l'entièreté de l'équipe. Vraiment, tous les salaires des joueurs rentrent dans ce plafond-là, puis il va varier d'année en année. En 2015-2016, le plafond salarial avait été fixé en juin à 71,4 millions de dollars. Pour payer tous les joueurs de l'équipe, puis le plancher était à 52,8 millions de dollars.
L'argent que j'aurais jamais dans mon compte.
C'est l'argent que la plupart des gens n'auront jamais dans leur compte non plus. Dans le fond, ça va varier, ça va être en fonction des dollars canadiens et des dollars américains, la valeur qu'ils vont avoir. Ce qui arrive avec ça, c'est que les équipes doivent absolument les respecter, puis ils peuvent pas dépasser, ils peuvent pas aller en dessous. C'est rare que des équipes vont en dessous là, quand même, parce que justement, tu vas avoir les meilleurs joueurs, donc tu veux avoir le plus d'argent possible à dépenser. Souvent, ce qui va arriver aussi, c'est que les revenus des équipes puis les revenus de la ligue en général vont aussi un peu influencer sur le plafond salarial. parce que les équipes vont avoir plus de budget pour payer leurs joueurs aussi. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de différences dans les salaires des joueurs de hockey qui vont encore aujourd'hui être astronomiques, ce qui est encore choquant pour plusieurs personnes. Il y en a qui vont faire souvent jusqu'à 10 millions de dollars, c'est pas si rare que ça de nos jours, les salaires sont de plus en plus élevés. Il y a d'autres joueurs par exemple qui vont gagner même pas 1 million, souvent quand c'est des contrats d'entrée dans la Ligue nationale, là, qui vont signer comme premier contrat. En anglais c'est un entry level contract, mais en français je pourrais pas dire c'est quoi. Souvent ça va être des salaires qui vont avoisiner entre 500 000 puis 1 million de dollars. En 2014-2015, le plus haut salarié de la Ligue nationale c'était Shea Weber, il faisait 14 millions de dollars par année, c'est un défenseur des Prédateurs de Nashville. Les joueurs qui suivaient cette année-là, c'était Sidney Crosby, qui est dans le fond techniquement le meilleur joueur au monde, c'est encore débattable aujourd'hui, on est plus sûr, mais dans le fond il faisait 12 millions de dollars. Après ça, il y avait Zach Parise, Ryan Sutter et Henry Columbus qui faisaient 11 millions de dollars chacun. Puis chez les Canadiens de Montréal, c'était le défenseur Piqué Subban qui empochait près de 8 millions de dollars. Dans le fond, dans les plus grandes vedettes de la Ligue nationale de hockey, au fil de l'histoire, même quand la Ligue avait des salaires vraiment moins élevés qu'aujourd'hui, il y en a quand même qui ont réussi à se faire des fortunes assez grandes, que c'est quand même impressionnant. Premièrement, le plus haut salarié, dans le fond, les deux plus hauts qui ont été salariés dans la ligue, qui auraient fait à peu près 100 millions de dollars au cours de leur carrière, c'est Jaromir Jagr puis Niklas Lidström. Puis il y a Chris Pronger qui aurait fait 93 millions, Joe Sakic aussi 93 millions, il y a Paul Kariya qui aurait fait 82 millions, Keith Kachuk qui aurait fait 80 millions de dollars et Rob Blake à 80 millions de dollars. C'est tous des assez gros salaires, je pense qu'on peut s'entendre qu'on le prendrait tout n'importe quand.
Exactement.
Mais comme je disais tantôt, c'est ça, c'est des salaires que parfois il y a des joueurs dans des ligues comme la NFL ou la MLB aux États-Unis qui vont faire ça comme en comme 4 ans peut-être. C'est vraiment pas des gros. Là on trouve ça exorbitant, mais techniquement il y a vraiment pire dans d'autres sports aux États-Unis. Là. Puis dans le fond, ce qui a trait aux joueurs, les joueurs ont signé des contrats, ça peut être pour plusieurs années ou ça peut être pour seulement une année. Ça dépend vraiment des joueurs puis de leur capacité, de leur âge aussi. Chez les Canadiens, enfin, par exemple, cette année, il y a juste deux contrats qui viennent à échéance. C'est celui de Tom Gilbert, un défenseur, puis de Tomáš Plekanec, qui est un attaquant. Au terme de la saison, ces deux joueurs-là, dans le fond, ne seront pas avec l'équipe, puis le 1er juillet, ils vont pouvoir être courtisés par d'autres équipes. Le 1er juillet, dans le fond, ça correspond avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes. De l'autre côté, il y a certains joueurs qui sont signés pour vraiment une plus longue période de temps. Ça, il va y avoir Max Pacioretty et Piqué Subban qui vont être signés jusqu'à à peu près 2018-2019 ou même plus loin encore. Donc en gros, c'est pas mal ça ce que j'avais dans mon article. C'est clair que je pense qu'on peut voir que d'être joueur de hockey professionnel, c'est pas mal un gage de réussite sur le plan salarial dans la vie. Ça va rester, je pense, un débat de société toujours parce que il y aura pas d'évolution là-dedans. Je pense pas qu'ils vont vraiment baisser les salaires. Il y a toujours du monde, je pense, qui vont être un peu contrariés par le fait que les joueurs font des si hauts salaires. Les contrats vont sûrement jamais cesser d'augmenter à cause que les vont juste faire de plus en plus de profits. Puis dans le fond, ils vont être autorisés à dépenser de plus en plus d'argent pour payer les joueurs. Puis dans le fond, comme je disais au début, ça va probablement juste rester un problème dans la société. Ben un problème, c'est relatif là. Mm-hmm. Mais un enjeu de débat dans la société parce que tous les gens qui sont pour le hockey ben, vont être d'accord avec les salaires des joueurs, puis tous les joueurs qui sont contre le hockey ou qui sont pas nécessairement fans ne seront pas pour les joueurs, ils vont plus trouver que c'est des salaires exorbitants.
Mais de toute façon, on s'entend que peu importe ce qui arrive, il va toujours avoir quelqu'un qui va chialer.
Peu importe, en effet, peu importe ce qui va arriver, il y a un des deux côtés qui va chialer, c'est sûr. Ok, donc on va changer de segment. Maintenant, on va vous parler d'une critique historique qu'on a faite. C'est tout dans le fond des événements qui sont basés sur la ville de Saint-Jérôme, qui est la ville où on enregistre en ce moment le podcast au cégep de Saint-Jérôme. On a été dans le fond aux archives de la Rivière-du-Nord, au centre d'archives de la Rivière-du-Nord. Donc ça inclut toutes les Laurentines, mais je pense que nos articles sont pas mal tous concernés sur Saint-Jérôme. Puis dans le fond, ça, on va vous présenter ce qu'on a découvert de merveilleux sur la ville de Saint-Jérôme. Alexandra, tu peux commencer. C'est quoi le sujet de ta critique?
Moi, dans le fond, la critique, le sujet de ma critique que j'ai choisi, c'était vraiment concernant des photos de différentes années des archives de Saint-Jérôme. Donc, dans ma critique, j'ai analysé 4 différentes photos. Je les ai comparées afin de comprendre c'était quoi l'évolution du hockey à travers l'équipement, le nombre de joueurs. Il est important aussi de préciser que c'est pas vraiment une critique, c'est plus une analyse de contenu sur des photos, sur certains détails. Donc, j'ai commencé par la critique externe. Premièrement, vu que c'est des photos, il n'y a pas vraiment d'auteur, c'est plus des photographes. Puis aussi, on sait que vu que c'est des anciennes photos, c'était pas genre de tous les photographes à signer leurs photos. Fait qu'il y a certaines identités qui sont absentes, puis même même parfois c'est les compagnies qui avaient leur logo sur la photo, fait que c'est pas le photographe en lui-même qui a le crédit de la photo. Donc pour la première photo, dans le fond c'est le photographe ou la compagnie se nomme Géo Allaire. Son rôle à l'époque, c'était de prendre des photos d'équipe à chaque nouvelle saison. C'est d'ailleurs le principal rôle de différents photographes qui sont présentés à travers ma critique, parce qu'on sait qu'à chaque année, peu importe le sport, il y a toujours des photos d'équipe. Donc pour la deuxième photo, c'est la compagnie L'Après et Lavergne qui ont pris la photo et c'est aussi le même rôle que la photo précédente. Pour la troisième, par contre, c'est le journal de Mirabelle qui l'a prise. Elle a été prise dans le but d'écrire un article sur une équipe qui était numéro 1 à ce moment-là. Et la quatrième photo, c'est pris par Jean Bellemare, qui lui aussi, c'est dans le fond dans lui de prendre une photo d'équipe comme à chaque saison. Deuxièmement, le contexte de prise de photo pour la première photo et la deuxième, c'est une prise de photo régulière. C'est-à-dire que c'est encore une fois une photo d'équipe qui a été prise à chaque saison comme mentionné avant. Pour la troisième, c'est une photo qui a été prise pendant une pratique de l'équipe gagnante. Et la dernière, c'est dans le même contexte que les deux premières. Troisièmement, la première photo à date de 1924. Elle a été prise à Saint-Jérôme, dans la nature et dans le but de conserver comme archive tous les gens qui ont fait partie de l'équipe de hockey, dans le fond comme souvenir. La deuxième photo a été prise en 1914 et ce, dans la même nature que la première. La troisième photo a été prise en 1996 pour l'écriture de l'article et la dernière en 1974 pour la saison du hockey. Quatrièmement, la première, deuxième et quatrième photo étaient destinées pour les gens qui souhaitaient avoir un souvenir de leur enfant qui jouait au hockey et la troisième était destinée aux gens qui s'intéressaient au sport en lui-même et qui aimaient lire des articles puis s'informer sur les équipes locales. Pour la critique interne, il y a plusieurs éléments qui ont été comparés au cours de ma critique sur les différentes photos et nous permettent de comparer les différentes époques de l'évolution du hockey à Saint-Jérôme. Les premiers éléments comparés, c'est l'équipement. On peut remarquer sur les quatre différentes photos que l'équipement évolue énormément, de plus en plus les années avancent. Sur la première photo prise en 1914, on remarque que les joueurs ne semblent pas avoir d'équipement. Ils n'ont pas d'épaulettes. Ça, les épaulettes, dans le fond, c'est quand même bien important au hockey. Ça permet une bonne protection. Les chandails semblent faits en laine parce qu'on sait que dans ce temps-là, les patinoires, c'était à l'extérieur. Donc, c'était pas isolé. Il fallait qu'ils se tiennent au chaud. Dans le fond, les bâtons semblaient aussi en bois, qui est d'une qualité assez basique, ce qui devait occasionner beaucoup de bruit lors des parties. Puis les patins sont pas vraiment larges. En fond, ils n'ont pas l'air d'une très bonne qualité. Puis la lame a l'air assez faite d'un matériau basique aussi. Sur la deuxième photo, dans le fond, on remarque que les joueurs, ils n'ont pas de gants parce que dans le fond, c'est une photo d'équipe prise par les photographes au début de la saison. Donc, on voit seulement deux joueurs avec les gants, ce qui nous permet quand même d'analyser la qualité. Ça semble assez basique encore vu que c'est dans les débuts du hockey. Sur la photo, on remarque pas qu'il y a de gardien apparent, de gardien spécifique. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'équipement différent autant pour le gardien que pour les joueurs. On remarque qu'ils utilisent aussi du ruban sur leur hockey, ce qu'ils n'utilisaient pas dans le fond sur la première photo. Dans le fond, c'est plus le hockey avance, plus ils trouvent des méthodes pour que ce soit plus facile et que le jeu soit meilleur. On remarque aussi que les patins, dans le fond, la bottine du patin est vraiment plus large. C'est à peu près la seule différence qu'on peut remarquer sur cette photo. Pour la troisième photo, dans le fond, elle a été prise pour la saison de 1974 à 1975. On remarque que les joueurs portent un équipement de protection sur leur chandail. Les gardiens ont de plus grosses protections sur la photo que sur la photo de 1924. Les patins semblent être de plus grande qualité ou du moins adaptés à la cheville. Donc, ils montent plus haut pour pouvoir solidifier celle-ci. Sur cette photo, les bâtons de hockey sont absents. Il est donc impossible de les comparer, mais on peut en déduire que plus le temps avance, plus la qualité augmente. Sur la quatrième photo, celle prise en 1996, elle a été prise lors d'une pratique, fait qu'on peut voir les joueurs avec leur équipement complet, incluant leur casque. Les joueurs ont également un équipement plus large sous leur chandail. Les bâtons sont faits de meilleure qualité chaque année. Si on compare toutes les photos ensemble, on remarque que beaucoup d'éléments concernant l'équipement en elle-même ont évolué. On peut également comparer le nombre de joueurs par équipe. Plus on recule dans le temps, plus le nombre de joueurs est petit. Sur la photo de 1914, on peut compter 7 joueurs. Sur celle de 1924, on en compte 10. Sur la quatrième, on en compte 21. Sur la troisième, comme ce n'est pas une photo d'équipe complète, il est impossible de savoir combien l'équipe comptait de joueurs. Finalement, la comparaison de ces différentes photos permet de voir l'évolution du hockey à Saint-Jérôme.
Ces documents ont une importante valeur pour certaines personnes car elles permettent d'en apprendre plus sur le passé des Jérômiens ainsi que d'en apprendre plus sur le sport en tant que tel. Il est important de comprendre notre histoire et d'en comprendre l'évolution si l'on veut comprendre notre hockey d'aujourd'hui. Les photos ne sont pas les archives les plus importantes qui soient pour comprendre une époque, mais elles aident énormément pour se faire une image.
Pourquoi t'avais choisi de comparer des photos?
Dans le fond, quand j'ai été au centre d'archives, ce qui était le plus frappant, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de photos sur le hockey. Fait que je me suis dit que ça avait une place importante dans les archives des Jérômiens. Fait que je trouvais ça intéressant de comparer, dans le fond, les photos qui ont été prises avec l'équipement, les différents éléments sur celle-ci.
Non, c'est bon, c'est intéressant. Et toi, Karine, quel est le sujet de ta critique historique?
Moi, dans le fond, je me suis intéressée à savoir l'histoire du hockey au centre d'archives de mon entourage, qui est la ville de Saint-Jérôme. J'ai choisi le journal de l'Écho du Nord pour mes articles. Les articles étaient écrits en fonction d'une équipe en particulier, et c'est les Alouettes de Saint-Jérôme. Cette équipe-là, elle a joué entre les années 1959 à 1972, et c'était une équipe junior de hockey qui jouait à la patinoire Melançon, qui est tout proche d'ici. Et en m'éternisant sur les sujets de cette équipe, j'ai pu remarquer que les accidents revenaient souvent. Pourquoi j'ai voulu faire une critique historique qui concerne les accidents au hockey concernant la ville de Saint-Jérôme. Pour la critique externe, il m'était impossible de trouver qu'une seule archive, alors je me suis inspirée de plusieurs écrits dans les journaux de l'Écho du Nord, de la ville de Saint-Jérôme. Ce journal est né d'une divergence entre les nouveaux propriétaires de l'Avenir du Nord. Il sera fondé en octobre 1935 et le fonds portera principalement sur les Jeux du Québec tenus entre 1987 et 2000 et les activités sociales et sportives se déroulant à Saint-Jérôme et ses environs. Ce sera dans un contexte politique libéral que ce journal sera créé, il fermera ses portes en 2015. Malheureusement, les archives du journal de ces années-là ne mentionnent pas toujours qui sont les auteurs. Vu les années qui se sont écoulées, les personnes responsables de faire les archives n'ont pas toujours la chance de le savoir vu l'état que l'archive peut avoir. Ces lecteurs étaient aux aguets pour obtenir les nouvelles actuelles et il était un journal incontournable médiatique. Que ce soit les événements, l'éducation, la politique, la culture et le sport, le journal démontrait tout son intérêt envers les citoyens de la ville de Saint-Jérôme et de Mirabel. Maintenant, je vais vous parler explicitement ce que les archives sur les Alouettes parlaient. Dans le fond, dans le journal, il y avait toujours une section qui était réservée spécialement pour eux. C'est donc en soi une partie bien importante pour les habitants locaux si nous considérons que le journal ne faisait que 10 pages à l'époque. Le déroulement de la partie avec tous les détails qui en découlent est toujours mentionné. Par exemple, le pointage alloué, comment le déroulement s'est passé, la date de la prochaine partie et les accidents liés aux parties. J'ai pu voir, par exemple, que le mercredi 10 mars 1965, un match s'est déroulé. Claude Guénette, un des joueurs avant, a été victime d'un fâcheux accident en recevant la rondelle au-dessus de l'oreille devant le filet. Cet accident lui coûtera la fin de sa saison. On a cru au début que c'était une fracture du crâne, mais c'était plutôt une commotion cérébrale. On voit un peu que les connaissances n'étaient pas très acquises pour les arbres. Dans le deuxième article que j'ai trouvé, qui s'intitule « Le jeune McLaughlin qui a risqué la paralysie », Richard Camiran aborde l'accident d'un autre joueur de l'équipe des Alouettes, Brian McLaughlin. En effet, on explique que l'on ne doit pas lancer d'objets sur la glace parce que le jeune hockeyeur a accidentellement mis sur pied sur une pièce d'argent qui avait été lancée par un spectateur sur la patinoire. Il mentionne que c'est une situation qui arrive pratiquement à toutes les rencontres qui se déroulent dans les patinoires. Après une vérification auprès du médecin sur place, il confirme que le hockeyeur est hors de danger et qu'il pouvait retourner chez lui le soir même. Durant le retour, le jeune McLaughlin, âgé de 15 ans, souffrait beaucoup alors que son instructeur a décidé d'aller à l'hôpital avec lui. Le médecin de famille lui annonce qu'il a des vertèbres de déplacées dans le cou. C'est pourquoi la carrière du jeune pourrait être compromise.
Puis est-ce qu'il y a des liens, dans le fond, entre les accidents puis le manque de connaissances par rapport aux problèmes que ça peut poser?
Oui, dans le fond, j'ai pu remarquer quelques aspects. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec les personnes responsables de la confession des archives reliées au hockey de Saint-Jérôme et de pouvoir discuter des changements reliés au règlement et à l'équipement d'auparavant. C'est possible de voir dans un des articles qui démontre un accident qui était vraiment banal vu la gravité que cela pourrait avoir aujourd'hui, une rondelle en haut de l'oreille. Lorsque nous regardons les images des joueurs, nous pouvons voir qu'à cette époque, les joueurs ne portaient pas de casque, alors il était plus facile pour les joueurs d'avoir des accidents reliés à la tête. Nous pouvons voir que l'équipement était minime comparativement à aujourd'hui où les joueurs possèdent des épaulettes, un casque et des protège-coudes. Le casque était considéré comme de la peur avant. Nous pouvons voir aussi un manque de connaissances auprès des arbitres parce qu'ils ne considèrent pas la chose stressante vraiment, tandis qu'aujourd'hui, nous ne prenons plus les commotions cérébrales à la légère. Dans le deuxième article, il est mentionné qu'il arrive fréquemment que les spectateurs lancent des objets sur la glace et les récidivités ne sont pas très sévères. Le propriétaire de la patinoire mentionne que les solutions sont seulement des avertissements. Aujourd'hui, il est possible de voir que dans les patinoires, nous avons des baies vitrées avec des filets en hauteur au cas où la rondelle irait dans les estrades. Ainsi, il est plus difficile pour les spectateurs d'atteindre les joueurs sur la glace. Selon René Tessier, archiviste au centre d'archives à Saint-Jérôme, il n'était pas rare de voir les joueurs s'asseoir sur le banc, même après avoir eu une commotion et s'évanouir. Les arbitres considéraient cela comme un petit choc. Donc, la familiarisation avec les accidents reliés au sport n'était pas acquise. En conclusion, suite aux lectures des articles de journaux de l'époque, nous pouvons remarquer un certain manque de compréhension des partisans et des arbitres au niveau des accidents. En effet, les nombreuses comparaisons que nous pouvons faire avec les équipements d'auparavant versus aujourd'hui sont flagrantes. Ils laissent croire qu'ils ne comprenaient pas la gravité des problèmes que peuvent causer les commotions cérébrales. Il est important de voir tous les changements apportés au fil des années sur les équipements, les patinoires et sur l'éducation sur les accidents reliés au jeu. Il y a toujours place à l'amélioration.
D'accord, mais moi je vais parler dans le fond d'un article qui a été publié dans la presse. Il n'y a pas vraiment d'auteur qui est cité, c'est comme juste le collectif de la presse qui l'a écrit. C'est par rapport à l'inauguration du nouvel aréna de Saint-Jérôme en 1934. Donc c'est ça, cet article a été publié dans la presse qui a été fondée en 1884 à Montréal. Ça a été fondé par William Edmund Blumhardt. Dans le fond, on a reproché quelques lacunes à la presse au fil des années. Dans le fond, il y avait quelques informations qui avaient été publiées dans le journal que certaines personnes disaient qu'ils étaient inexactes ou qu'il y avait des textes qui pouvaient comporter certaines lacunes. La presse, dans le fond, écrivait beaucoup sur la politique, comme plusieurs journaux à l'époque, c'était souvent un sujet qui revenait parce que c'était ça souvent le but premier des journaux, c'était de discuter de politique. Par contre, dans le fond, c'est ça, la presse avait été reprochée, dans le fond, de publier des choses qui pouvaient favoriser certains partis politiques pour influencer les votes lors d'élections provinciales ou fédérales. Le journal avait un peu mal paru dans ces temps-là. Mais sinon, après, le quotidien, dans le fond, ça a bien été. Puis, il traitait, dans le fond, de beaucoup de choses, dont il faisait des portraits de plusieurs personnalités qui sont pas seulement du monde politique. Il y avait aussi une section des sports, des arts et spectacles et tout. Comme il y a aujourd'hui, dans le fond, mais évidemment, c'était moins intense que... Mon article, dans le fond, ça porte sur l'inauguration de l'aréna de Saint-Jérôme. C'était un match, dans le fond, entre les Canadiens et le Montréal. Ça se dit sûrement comme ça, mais c'est les deux équipes qui s'appelaient les Canadiens et le Montréal. C'était, dans le fond, c'était un match d'exhibition, donc c'était pas dans le cadre d'une ligue ou d'une saison d'une ligue. C'était vraiment juste, dans le fond, l'ouverture de l'aréna. Dans le fond, on voulait aussi faire un article pour parler d'une nouvelle technologie qui a été apportée par rapport à la glace. C'est une nouvelle division de la couche de glace qui était supposée rendre le jeu plus rapide. Puis, dans le fond, c'était supposé vraiment améliorer la qualité du jeu. Les deux clubs de hockey, dans le fond, qui se sont affrontés, c'était pas de la région immédiate, donc ils étaient vraiment venus seulement pour inaugurer l'aréna. C'était, comme j'ai dit, un match d'exhibition qui était pas dans le cadre d'aucune ligue. L'article de la presse a été publié le 18 février 1934, qui était le lendemain, dans le fond, de l'ouverture. Puis, la langue d'origine du texte, bien évidemment, c'était le français parce que c'est un journal québécois et en fond, montréalais et francophone. L'article sert vraiment à diffuser de l'information sur le nouvel aréna et le nouveau type de division de la glace qui est dans le fond une nouvelle technologie. On voulait aussi présenter le résultat du match qui impliquait les deux équipes de Montréal. Donc le journal était de Montréal et il a été voir deux équipes de Montréal qui s'affrontaient en match d'exhibition. Dans le fond, l'article est destiné surtout dans le fond pour informer le lecteur. On donnait les statistiques puis le pointage du match, mais aussi dans le fond surtout pour les amateurs de sport qui lisent la presse. Les lecteurs du journal La Presse, évidemment, les premiers destinataires, parce que sinon, dans le temps, il n'y avait pas d'internet et tout, donc ils ne pouvaient pas vraiment lire l'article s'ils n'étaient pas abonnés au journal de La Presse. Puis le sujet principal, dans le fond, ben, vraiment central, c'est l'inauguration de l'aréna. Mais évidemment, c'est ça, on traite des statistiques de la nouvelle glace, puis des résultats du match et des statistiques des joueurs dans le texte aussi. Pour ce qui est de la critique interne, dans le fond, je vais juste parler de ce qui est vraiment dans l'article. Premièrement, le pointage s'est terminé 5 à 4. On apprend aussi, les Canadiens, dans le fond, ont gagné le match 5 à 4. On apprend aussi des statistiques des joueurs, comme qui a compté, à quelle minute exactement ils ont été comptés. On apprend aussi que l'événement a été vraiment un franc succès, que ça a été, que le sport a été réellement à l'honneur lors de l'événement, puis on parle même d'une vraie fête sportive. On peut aussi apprendre des choses sur la construction de l'aréna, comme les délais, puis les matériaux qui ont été utilisés. Surtout par rapport à la glace, vu que c'est ça la principale innovation de l'aréna. Aussi un descriptif détaillé du match, puis des événements marquants qui se sont passés lors de l'inauguration. Puis, dans le fond, on peut comprendre dans cet article-là à quel point la ville de Saint-Jérôme tient vraiment son sport national. Il y avait beaucoup d'engouement pour un rendez-vous pour inaugurer une aréna qui allait être la leur après le match d'exhibition. Puis c'était même pas pour voir des équipes de Saint-Jérôme, c'était pour voir deux équipes de Montréal qui suivent probablement pas normalement parce que justement c'est beaucoup trop loin. Dans l'article, ça dit aussi que le maire avait fait un excellent travail pour organiser l'ouverture de l'aréna, justement parce que ça prouve qu'ils tiennent beaucoup à l'aréna dans la ville de Saint-Jérôme. Puis dans le fond, en conclusion, je veux juste dire que dans le fond, ça démontre vraiment comment le hockey occupe une place importante. Et je suis certaine que ça serait passé aussi dans d'autres villes, pas juste à Saint-Jérôme. Là, c'est clair que c'est partout au Québec là, que le hockey a une importance vraiment grande.
L'aréna aujourd'hui, c'est laquelle, dans le fond?
Cette aréna-là, le toit s'est écroulé, fait qu'elle est détruite maintenant. Fait que là, il y a Mais je pense qu'il y a une nouvelle aréna en construction.
Proche de la polyvalente, là.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça, il y a une nouvelle aréna en construction. Puis il y a encore l'aréna Melançon qui est là. Il y a des arénas aussi dans les villes aux alentours, là. Saint-Jérôme, c'est plus comme la métropole des Laurentides. Maintenant, on va faire une discussion sur des sujets chauds du hockey. On va commencer par la saison passée du Canadien. Donc, je pense que tout le monde a peut-être un petit quelque chose à dire dessus. Ça s'est pas tant bien passé pour les Canadiens, malheureusement. Il y avait beaucoup d'attentes au début de la saison, là, avec les 10 parties qui ont gagné. Ben, 10, je sais pas si ils se sont rendus à 10, mais ils ont arrêté à 9. C'était bien parti.
Leur grande victoire.
Ouais, c'était, je pense que c'est la seule bonne partie de la saison. Là. Tu sais, puis je pense que Galchenyuk, mm-hmm. qui est comme enfin qui a commencé à performer. Là.
Ouais, mais... Ça, moi, je trouve que le changement, il a commencé à s'apercevoir quand Price est parti à cause d'une blessure.
Ouais, c'est
exactement.
T'sais, j'ai discuté avec certaines personnes de mon entourage, puis ils affirmaient, non, c'est pas juste le gardien qui...
Ben, je suis d'accord. Je pense pas que c'est juste le gardien.
Non, faut pas juste se fier, justement, au gardien. Une équipe, ouais. C'est tout, tous les joueurs qui...
Moi, je pense que ça dit quelque chose aussi sur le reste de l'équipe. On s'entend qu'il y a pas mal des lacunes mm-hmm. à Montréal. Là,
mais moi, jouant dans les sports d'équipe, je sais que quand t'as pas confiance en ton gardien en arrière,
non, ça, c'est ça.
Tu veux pas, aller compter des buts. Ça, tu veux jouer plus défensif, tu veux pas jouer offensif. Fait que c'est sûr que ça influence beaucoup le jeu de l'équipe.
Mm-hmm. Ben c'est clair, tu fais plus confiance à celui qui est en arrière, tu peux plus mm-hmm. prendre des chances. Puis
Price, on s'entend que c'est un solide morceau dans l'équipe.
Ouais, ben, c'est le meilleur joueur d'hockey au monde. Mm-hmm. Ça, c'est débattable.
Mm-hmm.
Mais ouais, non. Mais moi, personnellement, c'est ça. Je pense que... Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas contents non plus de Therrien. Ouais. Qui aurait aimé ça qu'il se fasse remplacer. Je fais un peu partie de ces gens-là.
Oui.
Parce que, ben, je trouve que l'utilisation des jeunes est bizarre, je trouve. Personnellement, j'aurais... Mettons Galchenyuk qui a commencé à performer quand il a fait plus jouer. Mais moi, ça fait longtemps que j'aurais fait plus jouer Galchenyuk, personnellement. Fait. Puis en plus, il a joué plus à cause des blessures de Dernay. Puis mm-hmm. c'était vraiment à cause juste un tas de blessures qu'il s'est fait mettre au centre. Puis qu'après, il a commencé à performer. C'était ridicule après, là, comment il faisait des buts par partie. Personnellement, je pense que Price est un problème. Puis je pense qu'encore que Therrien est un petit peu un problème. Puis je pense qu'il manque comme... Il y a comme... On dirait que les Canadiens tout en profondeur. Ça, il n'y en a eu pas de problème, mm-hmm. là, les 3-4e trio. Mais c'est comme la première ligne, il manque un ailier, il manque un centre, le gros joueur de centre. Techniquement, ça peut être Galchenyuk, mais mm-hmm. ça pourrait être le fun d'en avoir un autre aussi.
Ça, je pense que c'était cette saison-ci, c'était plus l'accumulation de certains problèmes qui ont fait en sorte que...
Les blessures, c'était fou, là.
Ouais, on dirait qu'à chaque game, il y avait une autre blessure, puis un petit orteil, un petit doigt. puis finalement, on espérait vraiment que Price revienne, puis...
C'est pas arrivé.
C'est pas arrivé.
Ils jouent au golf, présentement.
Ouais, le golf, j'espère qu'ils sont meilleurs au golf qu'au hockey.
Je pense qu'on peut espérer que Price soit là au début de la saison prochaine.
On espère.
Avec sa nouvelle petite fille.
Oui, Liv.
Son nouveau petit bébé, il va peut-être revenir en force.
J'espère, au championnat du monde même. Mm-hmm. Ça serait bien qu'il participe.
Ouais.
Maintenant, on peut parler d'un autre sujet chaud, comme les salaires. Vous avez des choses à dire par rapport à sont-ils trop payés ou pas, les joueurs?
Mais moi, je trouve que si on regarde, là, moi, je suis une fan de hockey, mais si je laisse mon côté fan puis je regarde juste le côté salaire, c'est sûr qu'ils sont beaucoup payés pour la job qu'ils font. Mais en même temps, ces hommes-là, ils finissent leur carrière dans trentaine.
Ouais.
Ils ont le corps, reste de... C'est le corps, là, toutes les blessures qu'ils ont, là, ça fait partie de la game, exactement. Mais tu sais, c'est... Faut que ça paye pas, puis on regarde beaucoup de joueurs là, que aussi leur saison, ils vont même pas jusqu'à 30 ans parce que les équipes les rappellent pas. Pis...
Ouais, juste des blessures, ça peut faire une carrière vite. Puis souvent, ils ont pas été aux études, ils ont pas moyen de...
C'est ça.
Exactement. Puis la carrière se base sur une dizaine d'années, peut-être moins. Ça. Mm-hmm. Donc, 10 ans pour le salaire qu'ils ont.
Pour te faire ta vie au complet en salaire.
Exactement.
Mais surtout, ils ont besoin de s'acheter souvent des choses en double. Je veux dire, ils ont souvent une maison dans leur ville natale, puis ils ont une maison dans la ville où ils jouent au hockey. Puis des fois, ils ont une maison, c'est juste, ça veut pas dire si, mettons, leur femme elle vient d'une autre place, ben, ils vont avoir une maison genre où il y a leur femme. Ouais. S'ils jouent longtemps à une place, ils vont vouloir garder un pied à terre dans cette place-là, même s'ils sont échangés ailleurs. Ça fait beaucoup de dépenses aussi. Là. Ça reste que oui, ils voyagent beaucoup, puis ils sont payés beaucoup de choses, mais ça.
Parce que leur mode de vie est pas facile. Là. Moi, je sais que la. Que c'est pas vraiment une bonne source, là, mais j'écoute beaucoup Hockey's Wife, puis tu sais, eux, dans le fond, on les voit, là, les femmes sont souvent seules avec les enfants parce que les maris sont toujours partis jouer ailleurs, puis souvent, sont même pas dans les équipes, sont même pas dans les mêmes villes que leur famille. Fait que le mode de vie aussi fait en sorte qu'il faut qu'il y ait une compensation pour tout ça.
Mais juste par exemple, Marc-Pierre Morin et puis Brendan Press sont même pas dans la même ville. Non. Elle a sa carrière à Montréal, lui a sa carrière à Vancouver, donc c'est une fin de semaine sur deux, ils peuvent se voir, donc c'est un peu plus dur sur la vie
les relations.
Ouais.
Ben même dans Hockey Wives, justement, il y avait, c'est Emily Blum, je pense. Son conjoint, il jouait pour... Ben, il était tout le temps entre la Ligue américaine,
ouais,
puis entre la Ligue nationale. Fait qu'il fallait qu'il paye un hôtel à chaque fois quand il était rappelé dans la Ligue nationale.
Déménager, c'est vraiment
super. C'était tout le temps, il était d'une ville en autre ville, puis en plus, il y avait une maison en Californie, parce que c'est là qu'il habite toute l'année. Fait qu'il y avait comme trois maisons, puis... Ben, tu sais, c'est là que tu le vois, c'est pas des grosses maisons, là. Ils ont pas toutes des gros...
des grosses cabanes.
Tu sais, oui, il y en a, comme tu vois, des fois, c'est quoi, c'est Jonathan Bernier puis Martine. Qu'eux autres,
Martine, on en partie, elle!
Martine, qui est mannequin, puis mais c'est pas mannequin international, là, plus au Canada, puis mm-hmm. T'as Jonathan qui est gardien de but des Maple Leafs de Toronto. Puis c'est ça, ils ont le gros condo, c'est beau, mettons, chez eux, à Toronto. Puis à Montréal, ils ont une maison à Terrebonne.
Mm-hmm. Puis ça, tu sais, souvent, on a des préjugés, « Ah, oh, moi, je trouve qu'ils ont la vie facile, puis tout ça, mais ça montre... » Tu sais, oui, ils ont une vie... Tu sais, il y en a qui ont une grosse vie puis qui n'ont pas besoin de se demander si leur mari va avoir un contrat l'année prochaine. Mais il y en a que à chaque année, le 1er juillet, c'est un stress évident. Puis ils passent la journée devant la télé pour voir si leur mari va avoir un contrat.
Ah, ok, ouais, ils vont montrer.
Tu sais, ça peut vraiment être un mode de vie stressant. Puis je pense que les émissions comme ça peuvent nous montrer vraiment c'est quoi l'envers de la médaille d'une vie de célébrité.
Ouais, ben, de toute façon, je pense que dans Hockey Wives, ils montraient. Ils montrent vraiment des réalités de différents joueurs. Mm-hmm. T'sais, t'as Codette, le barber, qui elle a deux enfants, elle a un enfant qui est autiste.
Puis qui n'ont pas pu déménager parce que lui avait une école adaptée.
Il était en école spéciale à Calgary. Mm-hmm. Fait qu'il vivait à Calgary pendant que Jason, qui est son mari, il jouait pour le club école des Ducks en Californie. Fait que genre, les enfants ne voyaient jamais leur père. Mm-hmm. Puis maintenant, là, ils sont rendus à Philadelphie. Parce qu'il a été changé, puis il a eu un nouveau contrat, mais même lui, c'était un gros stress, là, il savait pas s'il allait avoir un autre contrat, puis c'est à la fin de la journée, je pense qu'ils l'ont appelé, puis ils ont dit, genre, on donne un an, puis il fait pas des millions, là. Il est comme deuxième gardien du club école, là. C'est vraiment, il est là pour être un vétéran, puis pour aider, comme, le gardien qui est plus jeune, là.
Puis il y a même un joueur, tu sais, on voit sa femme, Tiffany Paris, qui... Elle est super stressée, puis elle en vient même colérique quand les autres parlent de leurs petits problèmes qui sont pas réellement des problèmes parce qu'eux savent que la carrière de George.
Parle de leur bracelet à genre 1000$.
Ouais, t'sais, elle sait que la carrière de son mari est terminée, qu'ils n'auront plus le même mode de vie, puis il faut même qu'ils se trouvent un autre travail après la carrière, ce qui est rare habituellement pour des bons joueurs d'hockey, mais.
Mm-hmm.
On sait que Paris était là juste pour la bataille.
C'est un batailleur.
Ouais. Mais personnellement, j'aime mieux avoir un joueur qui se donne sa vie pour un sport qu'un premier ministre qui a un gros salaire mais qui coupe dans plein de choses pour la société.
À quelque part, c'est des modèles.
Mm-hmm.
Pour les enfants. Plusieurs jeunes, je veux dire, oui, il y en a que des fois. On a tout entendu des scandales de joueurs, mais tu sais, juste à Montréal, il y a plusieurs blogs sportifs, là, quand tu regardes de 25 Stanley, puis que tu vois tout le drama genre à Montréal, puis tu sais, les balles, où est-ce que les joueurs vont. Fait que tu sais un peu, c'est sûr qu'ils font pas toujours des affaires qui sont géniales, mais souvent c'est des idoles de plusieurs jeunes.
Oui, puis si on veut mettre l'accent sur une société en santé, c'est sûr que c'est important de mettre l'accent sur le sport. Pis...
Clairement.
Le hockey, ça prend une grande place dans l'Amérique, là, fait qu'il faut... Je pense pas que c'est un atout à enlever, là.
Ouais. Juste, je pense que c'est une compensation pour la vie publique qu'ils ont, surtout à Montréal puis à Toronto, là. Je pense que les villes canadiennes, c'est les pays, là.
Mm-hmm.
Et je pense que même, encore une fois, dans Hockey Wives, je pense que c'est Martine qui disait que Jonathan se faisait pas reconnaître pantoute à Los Angeles quand il était le gardien des Kings, mais quand il est arrivé à Toronto, tout le monde le connaît à chaque coin de rue. Puis il est pas nécessairement... C'est pas le meilleur gardien qu'il y a pas, là, on s'entend, là. Il y a eu une début de saison qui était comme littéralement horrible, ils l'ont remis dans les mineurs, puis... Il se fait tout en reconnaître dans la rue, puis... Mais c'est sûr qu'à Toronto, je pense que le club école, c'est les Marlies, ils sont genre dans la même ville, là. C'est genre l'aréna est à côté, mais ça reste que c'est quand même gros, là, qu'ils se fassent reconnaître à chaque coin de rue, parce que c'est ça, c'est pas la même réalité dans chaque ville. Je pense que surtout dans les villes canadiennes, les plus gros salaires sont justifiés, à mon avis, quand même. C'est sûr qu'il y en a, comme tantôt je disais, à 14 millions, ça commence à être pas mal, surtout qu'ils jouent à Nashville. De pas avoir des gros problèmes de vie privée à Nashville.
Effectivement.
Ouais, c'est prêt à payer pour un bon joueur, j'imagine.
Mm-hmm.
Ouais, c'est quand même... On pourrait mettre des limites, là, peut-être, mais...
C'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment payés beaucoup, mais il y en a qui sont aussi... C'est difficile de se faire une place dans ce monde-là parce que peu importe si t'as un mauvais début de carrière ou si t'arrives un pépin, tout de suite tu peux redescendre dans le niveau dans l'équipe école.
Ah, c'est pas long.
Il y a aussi, il y en a beaucoup qui redonnent aussi à la communauté. Si on parle oui. de Piquet-Souban, l'hôpital Saint-Justine, il a donné plein d'argent. Il redonne aussi sans oui. juste garder tout pour eux.
Ouais. Justement, je pense qu'il y avait Garde Chenier qui a fait un événement avec, je pense que c'était quoi, c'était Logipic.
Pas confirmé.
Mais c'est, je pense que c'est pour des jeunes qui ont des difficultés. Je me rappelle plus en quoi, mais je sais qu'ils ont des difficultés. Puis c'est ça, il est allé faire des événements, puis dans le fond, il va faire signer des autographes. Là, je pense que les gens, ils comprennent aussi qu'ils sont à Montréal. Puis par rapport, dans le fond, à la communauté puis aux fans, là, je veux dire, c'est important. Là.
Puis tu sais, c'est pas toutes des têtes enflées comme les célébrités. Là. Si on regarde Price avec sa femme...
Il montre tout.
C'est ça, il montre tout. Puis quand on regarde dans l'émission Hockey's Wife, dans le fond, eux, ils sont vraiment là pour la population, puis ils vont à des événements, puis...
Ouais.
Sont gratifiants de tout ça, là.
Ben, même leur femme, ils vont. Mm-hmm. Angela, qui est la femme de Carrie, tu le vois, elle fait plein d'événements pour le petit déjeuner du Québec, qui est vraiment impliquée dans le petit déjeuner du Québec. Dans sa communauté, lui, qui est, je pense qu'il vient d'une communauté autochtone, qui est pas grosse, puis il s'implique vraiment là. Puis il s'implique aussi à Montréal, comme je pense qu'il est à Angela, puis genre, elle convainc aussi d'autres femmes de joueurs de venir comme emballer des cadeaux, je pense, dans un centre d'achat, puis ramasser des dons. Pendant qu'elle est enceinte, là, en plus, là, c'est ça le pire. Puis vraiment, je pense qu'elle a mis comme la photo de son bébé comme la journée d'après qu'elle a accouché. Ouais. C'est vraiment...
Ils sont là pour leurs fans.
C'est un petit scandale, je pense, quand genre ça a été annoncé qu'elle est enceinte parce que c'est les médias qui l'ont fait avant elle, puis elle était fâchée.
C'est comprenable.
C'est vrai, là. Ça, moi aussi, j'aurais sûrement... J'aurais pas trouvé drôle, mais... Tu sais, c'est déjà au moins... Tu sais, après, elle a pas fait exprès tout bloquer parce que justement, elle était fâchée. Tu sais, elle a quand même gardé, puis elle a... Elle a donné des updates, je pense, chaque semaine, là, mettre une photo de sa bédaine, pis tout. En tout cas, moi, je trouve ça bien, là, qu'ils partagent leur vie. Ben, vous, est-ce que vous êtes pour ou contre les batailles au hockey?
Mais moi, je trouve que ça amène, c'est rendu le hockey quasiment plus comme un spectacle qu'un sport. Il y a beaucoup de monde qui commence à aimer ça parce que c'est violent. Si on regarde, par exemple, Pacioretty qui s'est blessé il y a quelques années par un joueur des Bruins, Sarah, dans le fond, c'est rendu vraiment violent, puis ça peut mettre la vie des joueurs en danger. On voit souvent des joueurs qui se font couper la gorge par une lame, ou tu sais, ça peut aller jusqu'à certains points dangereux. Le débat serait long à faire si on serait pour ou contre les batailles. C'est sûr que c'est un sport pas de contact.
C'est
plat, ça serait ennuyant.
Je pense qu'il y a des limites à tout. On veut regarder un sport justement qu'on regarde la rondelle et non le spectacle qui se fait de bataille.
C'est pas un sport de gladiateur. Là.
Mais je pense pas que ce soit de pire en pire dans un sens. Il y a de moins en moins de batailles. Je veux dire, des bagarres justement comme George Parris, il y en a plus vraiment dans les. C'est rare.
Et c'est juste aussi ils
sont là pour être robustes, pour faire des mises en échec. Surtout les équipes de l'Ouest, là, on entend plus parler que c'est eux qui sont plus gros, qui sont plus forts, puis ils plaquent plus. Si c'est pas les Canadiens qui vont aller faire peur à grand monde, il y a pas gros joueurs de. Tu sais, mettons des joueurs de 6 pieds 4, 6 pieds 5, il y en a pas à Montréal. Non. Puis. Moi, c'est ça, je pense. Il y a plus vraiment de place, je pense, au hockey pour des joueurs qui sont spécifiquement faits pour se battre. Parce que je pense pas qu'il y a quand même. Je pense que c'est juste. C'est plus documenté aujourd'hui aussi.
Peut-être que les réseaux sociaux accentuent. Ouais.
Puis on est plus informé aussi sur les blessures. Tu sais, comme tu disais tantôt, Karine, les commotions. Avant, on n'était pas. Longtemps informé. Fait que maintenant, on est de plus en plus informés. Les règlements sont rendus de plus en plus sévères aussi sur ce qu'on permet et ce qu'on permet pas. Fait que je pense que c'est ça aussi qui permet qu'il y ait de moins en moins de bagarres. Puis, si on voit une équipe qui a beaucoup de joueurs comme George Parris juste pour la bataille, peut-être qu'ils ont une moins bonne image. Ça marche plus, c'est ça.
Cette équipe-là. C'est rare des. Non, mais vraiment, c'est rare.
C'est de plus en plus rare.
Qui sont vraiment engagés pour se battre. Ça se fait plus. Si tu fais juste te battre, t'es plus utile pour une équipe.
Non.
Pas dans la ligue aujourd'hui, parce que à chaque fois, c'est à coup de pénalité de 5 minutes. Là. C'est pas
ça coûte 10, cher.
Puis instigateur, t'en as plus. Puis tu peux mettre facilement ton équipe dans une position qui est pas nécessairement fun.
Ouais.
Mais je pense pas de là à les interdire, mais peut-être mettre des règlements.
Plus strict.
Je pense que les joueurs eux-mêmes, je veux dire, tu le sais que tu n'iras pas te battre pour rien. Tu sais, quand un joueur comme, mettons, Piqué va se battre, c'est parce qu'il y a une méchante bonne raison de se battre. Là.
Mais souvent, c'est sûr que les joueurs, même quand ils vont aller se battre, ils vont pas y aller de façon... Tu sais, souvent, les joueurs se connaissent tous entre eux.
C'est arrangé.
C'est ça.
Amis dangereux, ils s'en parlent, ils sont comme eux qui ont un job. Puis
c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pas tant les batailles, c'est plus les accidents qui arrivent, qui sont très dangereux. Puis souvent, les joueurs vont jouer cochon un peu, puis c'est ça qui va faire que... T'sais, ça va en blesser plus que si le jeu il arrête puis ils se battent sa glace en patin.
C'est pas les bagarres qui vont faire bien
non, c'est ça.
Mais je pense qu'il y a une grosse partie des blessures qu'on entend plus parler aujourd'hui, que c'est dû, je pense, à la vitesse. Mm-hmm. Le jeu est de plus en plus rapide.
Fait. C'est ça.
Puis les équipements sont de plus en plus minces parce que les joueurs veulent être plus rapides, fait qu'ils veulent que les équipements soient moins lourds, fait qu'ils veulent pas mettre nécessairement toutes les protèges. Je pense qu'il y a même des. Ils veulent proposer comme que ce soit obligé qu'ils mettent des bas qui protègent contre comme les
coupeurs.
Mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas parce qu'ils vont avoir trop chaud si on est bas. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a même juste dans le protège cou. Mm-hmm. Souvent dans les mineurs, tu vois les joueurs qui l'ont, mais dans le national, il n'y a pas un joueur qui l'a.
Sinon, souvent ça se déplace.
Tout dans les poignets, comme le chandail est relevé, puis genre tu vois son poignet. Puis mm-hmm. genre, ça c'est des grosses. Tu sais, c'est dangereux. Là,
des grosses veines,
ouais. C'est des veines importantes. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi je pense que la vitesse, il est pas beaucoup. Mm-hmm. Tu sais, le jeu est tellement rapide que maintenant, tu n'as même pas besoin d'un autre joueur pour te faire mal. C'est juste. Genre, tu pognes une coche dans la glace, puis tu plantes, puis tu prends dans la bombe, puis tu peux être fini pour la saison. Mm-hmm. C'est pas dur. T'as plus besoin de coups de cochon, puis de bataille. Puis... En fait, les batailles, je pense pas que c'est rare que tu te blesses vraiment en bataille, à moins que t'aies vraiment le poing à mauvaise place.
Ouais.
Tu te pètes la main en fait, dans un coup de poing, puis que ça tombe sur le casque ou sur la visière.
Le pire qui arrive, c'est que tu perds une dent ou tu sais,
ouais.
Du nez.
Mais c'est souvent
les joueurs qu'on voit sortir. Sans civière, c'est vraiment dans les accidents
à la tête.
Dans les batailles, ouais.
Souvent, c'est à la tête. Mm-hmm. Là, c'est rare pour mettre même une jambe. Mm-hmm. Même s'ils sont plus capables de patiner, ils vont nous amener sur l'autre jambe puis quelqu'un va y traîner jusqu'à... Mm-hmm. Ben, vierge, c'est rare. Tu avais quelque chose à dire sur les commotions?
Oui, dans le fond, moi, dans mon cours de bio, j'avais vu, dans le fond, que les impacts de la commotion sur le côté psychologique un peu, on voit que de plus en plus, si un joueur a de plus en plus de commotion, il peut avoir il y a plus de chances d'avoir des dépressions.
Ouais.
Fait que dans le fond, puis une commotion, c'est plus en plus dangereux une après l'autre, puis il y a des joueurs, même contre l'indication du médecin, ils ouais. vont vouloir tourner, mm-hmm. jouer, puis ça fait des joueurs là, que, mais on en voit aussi beaucoup au football, que après ça, après leur...
En fin de carrière.
En fin de carrière, souvent, ils ont des pertes de mémoire à court terme, pertes de mémoire à long terme, ils ont beaucoup d'effets sur leur...
En vie au complet.
Exactement. Fait que c'est...
Justement, encore dans Hockey Wise. je pense que c'est une des femmes qui disait, elle, c'est que après la carrière, je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais c'est tellement un pourcentage élevé de mariages qui...
Divorce,
ouais. Des divorces, parce que justement, sont plus... Parce qu'ils sont pas habitués de vivre avec leur mari comme à l'année longue. Fait que des fois, quand nécessairement tu vis pas avec ton mari... Que quand tu finis par être avec lui, comme tu sais, l'été, je veux dire, il doit visiter de la famille, il doit toujours être mm-hmm. occupé, mais comme pendant la saison, le mari est jamais là. Fait que quand il est à la maison, je pense que c'est même Angela Price, elle disait dans une entrevue, elle, comme c'est dur de l'avoir toujours à la maison depuis mm-hmm. qu'il est blessé parce qu'il fait plus les voyages avec l'équipe, il est toujours là. Il se réveille plus tard, ou il se réveille plus tôt, puis il revient plus tôt.
Aussi. Oui,
il
est frustré
ou dit c'est la même heure que l'équipe.
Ouais, c'est ça.
C'est pas facile non plus pour le couple, puis. C'était une grosse statistique qui disait que les mariages ils duraient pas après mm-hmm. les saisons parce que ben, après les carrières parce que justement il y a aussi des histoires de joueurs qui se suicident parce que mm-hmm. souvent c'est des causes de commotion cérébrale parce que c'est juste qu'ils ont des séquelles puis on
ça puis on tu sais il est important aussi de spécifier que ces joueurs là jouent hockey souvent depuis qu'ils ont 4-5 ouais. ans puis là rendus à 35 ans tout d'un coup leur carrière finit ils ont plus de rappel ou sont blessés fait que c'est sûr que pour eux c'est un changement de tout à rien là fait que tu sais, c'est ça qui influence aussi sur la vie de couple, ça influence sur la vie familiale, sur la vie du joueur. Ça a beaucoup de, le hockey a beaucoup d'impact sur mm-hmm.
Ben c'est sur là la vie au complet.
Mm-hmm.
Alors, ben ça a été vraiment plaisant de parler de hockey avec vous, les filles.
Mm-hmm.
Donc, merci Karine, merci Alexandra.
Merci Sarah.
De rien. ça a été vraiment pertinent. Je pense qu'on a, dans le fond, pas mal parlé de plein d'affaires que je pense que les gens vont être intéressés par notre podcast. Ça a été vraiment une belle expérience là, tout au cours de la session mm-hmm. de préparer ce podcast-là. J'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est ça. J'ai pas vraiment grand-chose à dire. Je pense qu'on a vraiment couvert pas mal tous les aspects du hockey qu'on avait envie de couvrir puis qu'on sentait qu'on connaissait le mieux par rapport au hockey. Donc, c'est pas mal ça. Donc, merci d'avoir écouté.